Bonjour à tout le monde. Je suis à nouveau ravi d'être avec vous. Je reconnais dans la liste des noms des personnes qui sont très fidèles à cet enseignement. Nous sommes arrivés à la 7e séance. Je suis Philippe Michel, donc j'avais fait les séances 1, 3, 4, et je fais donc cette 7e séance. La dernière sera réalisée par le professeur Mondar Letaïef, que vous connaissez bien maintenant aussi. Donc cette session se déroulera comme les autres, c'est-à-dire qu'on va avoir une projection de diapositives et une présentation des données, suivie d'une période d'échange et de discussion à partir de questions que vous nous enverrez. À la fin, il y aura comme d'habitude un questionnaire de satisfaction qu'on vous remercie à l'avance de compléter. Alors pour aujourd'hui, donc 7e session, on va s'intéresser à une question qui est absolument centrale, qui correspond sans doute à l'attente d'un grand nombre d'entre vous, parce qu'au-delà de la recherche, il y a la mise en application de la recherche. Et c'est l'objet de cette formation d'aujourd'hui, donc que j'ai intitulée La sécurité des patients fondée sur l'épreuve. Il s'agit bien de cela. Changer les pratiques doit être fondée sur l'épreuve. Mais au-delà des preuves, on verra qu'il y a un certain nombre d'étapes à franchir, à respecter plus exactement, pour que des changements qui sont fondés sur l'épreuve passent réellement dans la pratique. Diapositive suivante, ce qui est une présentation de votre professeur, donc encore une fois, il est toujours enchanté d'être avec vous. Diapositive suivante, les objectifs donc pédagogiques de cette session sont au nombre de deux. La première, c'est de connaître, reconnaître, renforcer encore l'importance de la sécurité des soins fondée sur l'épreuve. Nous avons dans la littérature un certain nombre d'actions qui sont reconnues comme étant efficaces, voire efficientes. Et le second objectif sera de savoir élaborer des stratégies d'implantation de ces meilleures pratiques de sécurité. Donc, notre formation sera découpée aujourd'hui en deux temps. La première sur la sécurité fondée sur l'épreuve, qu'est-ce qui existe, et la seconde, c'est comment élaborer une stratégie d'implantation. Alors avant donc notre petit schéma habituel, nous arrivons à la fin de ce cycle de formation, et donc sans beaucoup de surprises, nous sommes à la dernière étape, qui est donc en anglais Translating Evidence into Safer Care, c'est-à-dire passer de la théorie à la pratique en français, la pratique fondée sur l'épreuve. Diapositive suivante, quelques petites questions pour stimuler votre attention, voire votre intérêt. La première, c'est que signifie l'acronyme PDSA, qui est un acronyme anglais. Donc forcément, la réponse sera en anglais. Est-ce que c'est Process Delivery Study Activation? Est-ce que c'est Plan Do Study Act? Position Deploy Study Aim? Ou bien Patient Doctor Student Administrator? Ceux qui ont conçu ce quiz avaient beaucoup d'imagination. Il y a une réponse juste. La deuxième question, en formant une équipe d'amélioration de la qualité des soins, lequel des membres suivants n'a pas nécessairement besoin d'être représenté? Les dirigeants d'entreprise, qu'on va appeler aussi en anglais le top management, les médecins, l'expertise technique dans les cas de problèmes cliniques, ou bien l'encadrement de terrain, le middle management en anglais. Qui parmi ces quatre catégories n'a pas nécessairement besoin d'être représenté? Alors pour la troisième, en cas de problème technique, on va considérer que la question se pose pour un sujet pour lequel il y a un problème technique, évidemment. Diapositive suivante, la question numéro 3. Après avoir identifié dans les interventions dont l'efficacité a été démontrée, quelles étapes sont nécessaires localement avant d'implanter l'intervention? Quelles étapes? Là, on arrive sur l'implantation. Identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre de l'intervention. Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce qu'il faut absolument le faire? Mesurer la performance. Est-ce qu'il faut le faire? Est-ce qu'on peut s'en passer? Est-ce s'assurer que tous les patients ont reçu l'intervention? Est-ce qu'il faut toujours le faire ou bien peut-on s'en passer? La dernière modalité de réponse étant il faut tout faire. La question 4. Pour lever les obstacles locaux à la mise en œuvre d'une intervention, laquelle de ces propositions est correcte? L'intervention doit faire partie du processus de travail pour lever les obstacles locaux. Il faut s'assurer localement de l'applicabilité de l'intervention. Les principaux points de défaillance locaux doivent être ciblés. Ou est-ce que toutes les réponses ci-dessus sont justes? Allô, allô? Voilà. Je vous prie de m'excuser de cette interruption. Nous allons reprendre le cours. Là, j'ai été déconnecté. Voilà, la cinquième question porte sur la signification de la règle des 4 E. Là encore, c'est un acronyme anglais, les 4 I, utilisés pendant l'intervention. Est-ce que ça signifie éduquer, former, on dirait en français, estimer, éliminer les erreurs, évaluer, donc les 4 E, éduquer, estimer, éliminer, évaluer. Est-ce que c'est estimer, éduquer, exécuter, on dirait réaliser en français, et éliminer? Ou bien est-ce que c'est s'engager, éduquer, exécuter, évaluer? Ou est-ce que ça n'est aucune des réponses ci-dessus et il faut en trouver une quatrième? Donc la règle des 4 E qui sont utilisées pendant l'intervention afin de s'assurer de sa bonne conduite. Bravo pour tous ceux qui ont trouvé les bonnes réponses. Maintenant, on rentre dans le cours lui-même. L'introduction, finalement, elle est très courte. Pour cet enjeu qui est très important de passer de la théorie à la pratique, il y a deux questions qui se posent. La première, et on le sait bien, c'est que changer les pratiques, même lorsque les preuves d'efficacité sont bien connues, y compris bien connues localement, c'est ce qu'il y a de plus difficile à faire. Le changement de la pratique, la conduite du changement, et c'est ce qu'il y a de plus difficile en qualité et en sécurité des soins. La deuxième facette de cette introduction, c'est de dire que, bien évidemment, quand on implante des interventions, donc de la prévention, de l'amélioration des pratiques, il faut privilégier, quand elles existent, les interventions qui ont fait la preuve de leur efficacité, voire de leur efficience. Ça doit être la priorité. Donc avec ces deux éléments que nous posons là devant nous, on va se poser deux questions, qui sont bien évidemment aussi les objectifs de cette séance de formation. Y a-t-il des interventions qui ont fait la preuve de leur intervention et comment faciliter la conduite du changement? Alors donc, à la première question que l'on va voir maintenant, a-t-on des données fondées sur les preuves sur l'efficacité des interventions de sécurité des patients? La réponse est oui, dans la littérature, nous avons des données. Trois types d'interventions diapositives suivantes on fait déjà l'objet de travaux. Des interventions de nature clinique auprès des cliniciens pour améliorer directement les pratiques cliniques. Le deuxième type d'intervention sont des interventions qui sont plutôt fondées sur des changements d'organisation. Et le troisième type d'intervention, ce sont les interventions qui sont fondées sur une implication accrue des patients. Les trois sont importantes. Qu'avons-nous dans la littérature sur le sujet ? Diapositive suivante. Pour ce qui concerne les stratégies cliniques, j'ai repris un document qui fait date, qui a été publié maintenant en 2001, il y a 10 ans, qui a été fait par l'AHRQ, donc l'Agence américaine de recherche et de qualité, et qui posait la question donc d'une analyse critique des pratiques de sécurité des patients. On va voir ces résultats en deux temps. Le premier temps vient de s'afficher sur l'écran quand on fait un petit clic. À l'époque, en 2001, les pratiques issues de la littérature non médicale n'avaient pas encore fait leur preuve en santé. Alors c'est quoi les pratiques issues de la pratique non médicale, de la littérature non médicale? C'est par exemple l'utilisation des simulateurs qui n'avaient pas fait l'objet de preuves. L'utilisation des codes barres, notamment pour les médicaments, mais pour les soins en général. le repérage, l'identification des patients. La prescription médicale informatisée n'avait pas fait la preuve de son efficacité, ni les techniques de formation au travail en équipe, les co-resource management. En revanche, la HRQ nous disait qu'il y avait des pratiques cliniques qui avaient le plus haut niveau de preuve pour diminuer les risques associés aux soins. Donc, vous avez cette diapositive sous les yeux, on ne va pas la lire en entier, mais il existe 11 pratiques qui ont le plus haut niveau de preuve, et la seule question que j'aurais envie de poser à notre audience, c'est de dire, avons-nous partout déjà mis en œuvre ces 11 pratiques qui ont le plus haut niveau de preuve en termes de sécurisation des soins? Le plus haut niveau de preuve, ça signifie que globalement, ça devrait être partout et de façon quasi absolue mis en place. Si on rentre dans le détail, la première, par exemple, utilisation adéquate de méthodes prophylactiques de prévention thromboembolique chez les patients à risque. L'utilisation de bêta-bloquants périopératoires chez les patients en ayant besoin pour prévenir le taux de morbidité périopératoire. L'utilisation adéquate de traitements antibiotiques chez les patients ayant eu une intervention chirurgicale. L'aspiration continue de sécrétions sous-glottiques pour prévenir la pneumonie associée au respirateur. L'utilisation d'une procédure, je pense qu'il y a une erreur de traduction, c'est sous-glottique. L'utilisation d'une procédure de suivi par ultrason en temps réel pendant l'insertion du cathéter dans les voies veineuses centrales. L'utilisation des cathéters veineux centraux imprégnés d'antimicrobiens afin de prévenir les bactériémies. La mise en œuvre d'une prophylaxie maximale dans la pose de ces cathéters ventraux. L'utilisation de gants stériles, l'utilisation de champs stériles. Puis après, nous avons un autre sujet qui est l'optimisation de la nutrition, en particulier lors de nutrition entérale des patients fragiles et chirurgicaux. Et enfin, l'utilisation de matelas adaptés pour la prévention des escarres de cubitus. Vous voyez des pratiques qui sont des pratiques de base, je dirais, en termes de prise en charge de patients fragiles. Avons-nous mis tous, dans tous nos établissements, ces pratiques en œuvre? Diapositive suivante. Un article plus récent, fait par une équipe hollandaise, qui est paru donc en 2008, apporte des informations un petit peu nouvelles au-delà de ce qui a été fait par la HRQ en 2001 et porte sur des interventions qui deviennent un petit peu plus organisationnelles, voire planificatrices, comme par exemple la réalisation des actes dans des centres qui ont un fort volume d'activité. C'est ce qui est encadré sur cette diapositive en rose-orange. La mise en place de programmes de formation pour les procédures laparoscopiques, et là on est très proche de la simulation. La mise en place d'équipes d'urgence médicale, etc. Ou si on descend en bas par rapport aux médicaments, l'utilisation justement d'une prescription informatisée, la mise en place de consultations de pharmaciens cliniques et l'utilisation des codes barres. Donc vous voyez que la littérature nous apprend des pratiques qui sont de haut niveau de preuve en matière de sécurisation des soins. Il faut les connaître, ce sont celles qu'il faudrait mettre en place en théorie, en premier, quand il s'agit de mettre en place des actions de prévention. Diapositive suivante. Il m'a semblé important de porter à votre connaissance un exemple d'intervention qu'on appelle multiniveau en français, multifacette en anglais, parce que nous savons maintenant que pour améliorer la sécurité des soins, des actions ponctuelles portant sur un aspect de la pratique clinique ou un aspect de l'organisation ne sont pas suffisantes, ne sont pas efficaces. Et maintenant, on sait donc que au travers d'essais randomisés comme celui que vous avez là sous les yeux, il est paru en 2009, ont une efficacité bien supérieure à des interventions, on va dire, mono-objectifs. Donc là, dans cette étude-là, l'objectif était de tester une intervention multifacette d'implantation simultanée de plusieurs recommandations. c'était l'intérêt principal de cet article-là. On a beaucoup de travaux de recherche sur des interventions multifacettes qui combinent, vous voyez sur la partie droite de la diapositive, de la formation, de la diffusion de protocoles, de l'implication des patients, de la saisie informatisée des pratiques et la mise en place d'indicateurs, de processus et de résultats. Ça, c'est ce qu'on appelle une intervention multifacette. On aborde le problème sous plusieurs facettes. Mais ce qui était un peu original dans cette étude-là, c'est que les promoteurs de cette action avaient souhaité travailler sur plusieurs problèmes de pratique clinique, les chutes, les escarres et l'infection urinaire. Tout cela ensemble. Donc voilà, pour une illustration d'intervention, on va dire multifacette, multipratique. Donc intervention multiniveau. C'est celle-ci qui, au jour d'aujourd'hui, sont considérées comme les plus efficaces en matière de modification et de sécurisation des soins. Diapositive suivante. Deuxième type d'intervention, les interventions qui sont essentiellement fondées sur un changement d'organisation. Diapositive suivante. Je prendrai trois exemples très rapidement parce que les articles, vous pourrez aussi aller les chercher. Le premier a été déjà discuté dans notre série de formations. C'est le fameux travail qui avait été réalisé pour montrer l'efficacité de la checklist chirurgicale pour réduire la morbidité et la mortalité dans 8 villes de 8 pays différents dans le monde. Et là, l'intervention est centrée essentiellement sur un changement d'organisation puisqu'il s'agissait d'introduire cette checklist et de changer les façons de travailler des équipes, beaucoup plus que dans les exemples précédents que je prenais, changer telle ou telle pratique clinique. Le deuxième exemple, si on fait un clic pour faire apparaître le deuxième article que je voulais vous citer comme un article un petit peu illustratif, c'était un travail qui a été fait par l'équipe de Richard Groll, encore la Hollande, qui a fait une synthèse de la littérature sur les preuves qu'il existe en matière d'impact des projets collaboratifs. Alors les projets collaboratifs, c'est quoi? Ce sont des projets qui impliquent plusieurs structures, plusieurs établissements de santé, plusieurs régions, voire plusieurs pays, qui décident sur un temps relativement limité, 6 mois, 1 an, de porter une priorité importante sur un problème et de travailler tous ensemble. Alors la partie changement organisationnel, là, dans ce cas-là, est essentiellement fondée sur le fait que cette démarche étant collaborative, multi-organisation de soins, il y a des échanges entre ces organisations, qu'on peut appeler parfois du benchmarking, et qui sont d'ordre organisationnel pour optimiser les pratiques. Le troisième exemple est celui là d'une équipe américaine, donc d'Eric Thomas, qui étudier l'effet de ce qu'on appelle les visites hiérarchiques de sécurité, executive walk rounds, sur le climat de sécurité ou plus globalement sur la culture de sécurité. Donc, ils ont fait un essai randomisé des unités de soins qui recevaient ces visites hiérarchiques de sécurité, d'autres qui n'en recevaient pas, et l'impact sur le climat de sécurité. Voilà trois actions qui portent essentiellement sur des modalités organisationnelles de conduite du changement. Diapositive suivante. Le troisième type d'intervention, il est très important, c'est celui qui consiste à se dire qu'une implication accrue des patients pourrait améliorer la sécurité des soins. Diapositive suivante. Je dis qu'il est très important parce que c'est une croyance tout à fait partagée. L'OMS a mis en place un axe de travail autour de patient safety. Les travaux sont, eux, quand même relativement limités parce que finalement, il y a aussi certainement peu de travaux aussi financés sur le sujet, donc on a peu de résultats à présenter. Ce qui ressort de façon très systématique, et un travail très récent l'a confirmé, c'est que nous sommes sûrs maintenant que l'autogestion de la prophylaxie antithrombotique par les patients eux-mêmes est plus efficace que, par exemple, les cliniques des anticoagulants qui peuvent être mis en place dans tel ou tel pays. Donc, Ça, c'est une donnée qui est importante parce que vous savez que en matière de sécurité des soins, le risque associé à l'usage des antithrombotiques, que ce soit des antivitamines K ou des autres anticoagulants, sont la source principale de risque associée aux médicaments. En France, on a à peu près la moitié des événements indésirables qui surviennent en ville qui sont liés aux médicaments, et parmi ces événements, le tiers sont liés à des anticoagulants. Donc c'est un champ d'amélioration absolument considérable. Et voilà une action dont on sait qu'elle est efficace. La seconde que je voulais citer, qui a été dite dans la littérature, c'est le contrôle de l'information retenue après le consentement éclairé. Donner de l'information à un patient avant une intervention chirurgicale pour obtenir un consentement éclairé nécessiterait après un contrôle de l'information retenue. Et ce contrôle-là a été montré comme étant une action efficace d'amélioration de la sécurité. Alors, j'ai mis sous la rubrique « Autre », l'éducation thérapeutique, qui mériterait beaucoup plus que d'être citée dans les divers par rapport aux travaux. L'éducation thérapeutique, par nature, vise à impliquer les patients, à lui apporter des compétences qui lui permettent de s'impliquer plus dans la conduite de sa prise en charge. La littérature nous montre aussi que sur un certain nombre de maladies, l'éducation thérapeutique est efficace. Je prends trois exemples, l'asthme, le diabète de type 1 et l'insuffisance cardiaque. Diapositive suivante. Je voudrais simplement soulever avec vous la question de l'efficience. Et malheureusement, on ne fera que soulever la question parce que on a très peu de données dans les littératures, alors que la sécurisation des soins se fait avec des moyens qui parfois peuvent être considérables. Prenez l'exemple, par exemple, de la lutte contre les événements indésirables associés au sang. La mise en place des moyens de contrôle de la sécurité liée au sang a nécessité, en tout cas dans les pays développés, des moyens absolument considérables. Et on sait que l'acceptabilité de ce risque est très très faible dans la littérature. On est sur un champ un petit peu similaire avec les infections. Et que comme cette acceptabilité est très faible, tous les moyens sont mis en œuvre pour sécuriser le processus de collecte et de transfusion. À quel prix ? Et quelle est l'efficience de ces travaux de sécurisation? On ne les connaît pas parce qu'il existe une exigence sociétale et politique de sécurisation à tout prix. Maintenant, on est dans un contexte économique qui ne nous permettra pas sans doute de faire la même chose pour tous les types de risques. Donc essayons aussi dans les travaux de recherche, parce que ça demeure de l'ordre des travaux de recherche, de plus s'intéresser à la question d'efficience des actions de prévention. Ceci est vrai au niveau national et international, mais je dirais aussi au niveau local, quand on met en place une action d'amélioration, quel est le retour sur investissement qui est attendu par rapport à l'investissement qu'on décide de faire. Diapositive suivante. Maintenant, nous passons à la deuxième partie, qui est la partie donc de l'implantation du passage des connaissances que nous venons de voir à la pratique. Ça passe par un certain nombre d'étapes qu'il faut connaître. Diapositive suivante. Le grand principe des conditions d'implantation des meilleures pratiques de sécurité est d'avoir une approche intégrée qui mette l'accent sur les systèmes. Comment organisons-nous le travail des équipes de soins, des équipes de soins avec les supports logistiques, etc. Donc, mettre l'accent sur la façon de travailler dans les systèmes plutôt que sur les soins de chaque patient. On est dans une approche beaucoup plus systémique, organisationnelle. Le second élément de l'approche intégrée, c'est celui de la promotion de l'adaptation locale de l'intervention. Il n'y a pas de façon absolue d'implanter une intervention même quand elle a le plus haut niveau de preuve. Ça doit être adapté localement. Troisième élément de cette approche intégrée, c'est de s'assurer de l'engagement d'équipes pluridisciplinaire, interdisciplinaire locale. Le quatrième, c'est de créer localement aussi, ou à un niveau assez rapproché du lieu de mise en œuvre de cette action de sécurité, de ce programme de sécurité, un service support qui soit là pour les aspects techniques et logistiques. Et le cinquième élément de cette approche intégrée, c'est de créer une culture de collaboration au sein d'une unité locale et au sein du système global. Voilà cinq points sur lesquels il faut travailler, qui sont des principes et qu'on va revoir dans les diapositives suivantes. Donc, si on passe à la suivante, nous vous présentons le modèle d'amélioration qui a été mis en avant par l'Institut d'amélioration du système de santé, l'IHI, qui est à Cambridge, à côté de Boston, qui était dirigé par Don Berwick jusqu'à l'année dernière, qui a repris la roue de Deming, PDCA en français, Plan Do Check Act, c'est un acronyme français, et qui a suggéré de passer du COS, Plan Do Study Act. L'autre intérêt de ce modèle d'amélioration, c'est de nous dire qu'il y a trois questions fondamentales. Alors sur la partie droite de l'écran, vous l'avez en anglais, c'est le petit schéma de l'IHI. Je les ai notés à gauche en français, c'est de se poser trois questions fondamentales quand on implante une action de prévention. La première, c'est quel est notre objectif d'amélioration? Le second, c'est comment sait-on qu'un changement qu'on est en train d'imaginer va mener à une amélioration? La troisième question, c'est quel changement peut localement entraîner une amélioration? Ça, c'est trois questions fondamentales qu'il faut toujours se poser. On va les revoir dans la suite des diapositives. Et on va même les développer. Diapositive suivante. Avant de les développer, et selon un des principes que vous avez vu tout à l'heure, il faut former une équipe localement. Une équipe qui permette de porter l'action. Et on sait que les équipes efficaces doivent être constituées de membres qui représentent trois différents types d'expertise au sein de l'organisation. La direction de l'organisation doit être impliquée systématiquement. L'expertise technique doit être présente systématiquement. L'encadrement de terrain, donc au niveau des établissements de santé, les médecins chefs de service, les cadres de santé par exemple. Ça faisait l'objet d'une des questions du quiz. Et vous voyez que les docteurs, les médecins, ne sont pas cités, c'était la mauvaise réponse, entre guillemets. Ils n'ont pas forcément à être systématiquement associés. Mais j'ajouterais, dès qu'il s'agit d'une action qui a une composante de soins, de pratiques cliniques, il faut évidemment que ces médecins soient présents dans le groupe de travail. Diapositive suivante. Voilà un exemple. Si l'objectif d'une action de sécurisation est de réduire de 75% dans un délai de 12 mois les événements indésirables causés par les médicaments dans toutes les unités médicales et chirurgicales de l'établissement, on va composer une équipe multidisciplinaire. Le chef d'équipe pourra être, par exemple, Monsieur Intel, qui est médecin et président de ce qu'on appelle en France un comité du médicament et des dispositifs, les COMEDIMS, qui est l'instance qui est associé à la direction de l'établissement, à la CME, dans lequel se discutent tous les aspects, non de sécurité, mais plus largement de gestion des médicaments et des dispositifs implantables, stériles. Ce président, dans cette équipe-là, il était en plus coordonnateur de la gestion des risques associés aux soins dans son établissement. Il avait un parfait profil pour être chef d'équipe. Il doit s'associer une expertise technique, qui en l'occurrence là est un chef de service de pharmacie. L'encadrement local qui est constitué des cadres de santé, des services cliniques, de médecine et de chirurgie. Et puis d'autres membres de l'équipe, gestionnaires de risque de l'établissement, qualiticiens, du personnel infirmier, du personnel de la direction des ressources humaines, et notamment la formation du personnel, et la formation médicale, puisqu'il y a des aspects d'informatisation qui sont présente dans cette thématique. Voilà un exemple d'équipe à constituer. C'est naturellement une équipe qui se réunit pas toutes les semaines pendant 3 heures. Hein. C'est une équipe qui doit être mobilisée et dont le temps doit être optimisé sur cette action. Diapositive suivante. Voilà des exemples aussi de définition d'objectifs. Je disais qu'une des trois questions fondamentales à se poser quand on implante une action, c'est quel est l'objectif d'amélioration. Un objectif d'amélioration, c'est quelque chose qui doit être défini très précisément. C'est pas améliorer la qualité des soins ou améliorer la sécurité des soins. Ça, c'est pas un bon objectif. Il faut qu'il soit, dans la mesure du possible, chiffré, en tout cas qu'il soit très précis. Voilà trois exemples. Réduire de 75% les événements indésirables causés par les médicaments en soins intensifs dans un délai d'une année. Un deuxième qui est améliorer 75% le bilan comparatif des médicaments au point de transition d'ici un an. Ça signifie, par exemple, lorsque les patients rentrent dans un établissement de santé, que l'on compare les médicaments qu'il avait avant son arrivée et les médicaments que l'on prescrit au moment de son arrivée, et de voir si on a bien pris en compte la totalité de la thérapeutique qui est nécessaire à ce patient. Le troisième objectif, c'est de réaliser à plus de 95% l'objectif de qualité en matière d'administration prophylactique d'antibiotiques dans un délai d'une année. Voilà des bons objectifs qui sont chiffrés, qui sont précis. Diapositive suivante. Alors, pour, je vous disais, l'objectif pédagogique, le deuxième, c'était de bien connaître des stratégies d'implantation, de pratiques, des bonnes pratiques de sécurité. Voilà un article qui est excellent, qui a été fait donc par Pronovost, qui est un Américain, publié dans BMJ en 2008, dans le nord-ouest des États-Unis, et qui nous dit finalement la stratégie pour passer de la théorie à la pratique doit être fondée sur quatre étapes. Résumer, recenser les preuves. Deuxième étape, identifier les barrières locales à cette implantation. La troisième, c'est mesurer la performance. Et la quatrième, c'est s'assurer que tous les patients reçoivent l'intervention. Nous allons détailler chacune de ces étapes maintenant. Ça fera l'objet de la fin de cette formation parce que cette partie-là est absolument importante. Et si je reprends cet exemple et l'article de Pronovost, c'est parce qu'il a publié ce schéma conceptuel, on va dire, ces quatre étapes, à l'issue d'un très gros travail qui a été réalisé et qu'il a piloté pendant plusieurs années. Diapositive suivante. Donc, il nous dit, la première étape, c'est de recenser les preuves. Le principe, c'est d'identifier donc les interventions qui visent à améliorer un résultat attendu bien défini. Ça, c'est ce que vous aurez fait en élaborant les objectifs de votre action d'amélioration, prévention. Mettre en place une équipe interdisciplinaire de chercheurs et de cliniciens pour faire une revue de littérature, une revue des expériences aussi, il n'y a pas tout dans les littératures, mais d'aller voir ce qui s'est passé dans son propre pays, dans d'autres pays, à la recherche des interventions qui présentent le meilleur bénéfice, ou en tout cas un bénéfice important, et qui comportent les moindres risques. Attention, quand on met en place une intervention, on peut déplacer les risques, on peut créer de nouveaux risques. Donc, c'est un point d'attention qu'il faut avoir quand on décide de mettre en place un changement, qu'il soit d'ordre clinique ou organisationnel. Et puis, à la fin de cette étape de recensement des preuves, l'équipe interdisciplinaire dont je parlais va s'accorder sur un certain nombre d'interventions qui seraient souhaitables localement, et pas trop, maximum 7, dit Pronovost, et de transformer ces interventions en comportements. Là aussi, d'être précis sur les changements qu'on veut mettre en place et la façon d'apporter le changement. Diapositive suivante. La deuxième étape, disait-il, c'était d'identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre de cette intervention. Les obstacles locaux peuvent être levés en s'assurant que l'intervention fera bien partie du processus de travail, que ça n'est pas quelque chose qui est plaqué sur une organisation du travail existante et qui pourrait ne pas être adapté. Ça fait partie, ça doit être conçu comme faisant partie du processus de travail. Les professionnels ne doivent pas se dire « Tiens, ça c'est quelque chose en plus qui n'a rien à voir avec ce qu'on faisait jusqu'à présent. » Il faut donner du sens à l'intervention et le sens à lui donner passera par la mise en adéquation des processus de travail actuels avec ce qui est en train d'être prévu dans l'intervention. Donc, quel est le contexte qui entoure le travail ? Et revoir l'intervention avec les équipes de terrain afin d'identifier ce qui est nécessaire à la mise en œuvre de l'intervention. Donc, discuter avec les équipes de terrain. Où sont situées les défaillances? Qu'est-ce qui pourrait être fait pour améliorer l'acceptabilité fluidité de l'intervention. Voilà des questions qui sont importantes et qui doivent être discutées avec les équipes de terrain pour faciliter l'acceptabilité, la faisabilité de l'intervention et donc par conséquence également son efficacité. Diapositive suivante. Comprendre le contexte. Qu'est-ce que ça veut dire? On est toujours dans cette phase 2 du modèle de Pronovost. C'est demander à tous les acteurs pourquoi il est difficile ou facile pour eux de se conformer aux pratiques recommandées. Voilà une question qui est simple et qui apporte beaucoup d'informations quand elle est posée aux acteurs de terrain. Être à l'écoute en tout cas. Être à l'écoute et informer le personnel sur ce qu'il peut gagner ou perdre pendant la réalisation de l'intervention. On pourrait résumer un petit peu ce que je suis en train de dire par un adage qui est tellement vrai. On n'impose pas le changement, on le négocie. Quelle que soit la position hiérarchique de celui qui va proposer le changement, il ne pourra pas l'imposer. D'où cette importance de discuter avec les acteurs, de confronter leur vue, leur perception avec ce que vous êtes en train d'essayer de faire, d'être à l'écoute, d'informer, de négocier. Diapositive suivante. La troisième étape du schéma de Pronovost, c'est de mesurer les performances. Nous avons besoin de mesurer les performances pour évaluer, par exemple, combien de fois et comment les patients reçoivent réellement les soins recommandés. Le mot réellement est souligné dans le sens où on travaille souvent, quand on fait de l'évaluation, sur la perception par les acteurs, sur un mode déclaratif. Ce qui est important, c'est d'essayer de mesurer les performances en termes de pratiques réelles, parce qu'on sait qu'il y a un fossé entre ce que l'on croit faire, ce que l'on déclare faire et ce que l'on fait réellement. Donc des mesures du processus. Mais également, si on le peut, mettre en place des mesures de résultats pour voir si la santé des patients s'améliore. Et ces mesures de résultats doivent être privilégiées. Les mesures de résultats doivent être privilégiées, pardon, si on sait qu'elles sont valides et réalisables. La validité d'une mesure consiste à savoir si, par exemple, elle est reproductible dans le temps. Diapositive suivante. Alors, des mesures, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est essentiellement des mesures quantitatives. On quantifie une activité, on quantifie un résultat afin de déterminer si un changement spécifique a réellement conduit à l'amélioration. Ce qu'il faut privilégier, c'est des mesures qui sont faciles à avoir, de telle sorte qu'elles pourront être répétées. Mesurer l'impact d'une intervention, c'est consiste à se poser la question de est-ce que une intervention a entraîné un changement. Pour faire ce lien de causalité entre l'intervention et le changement, il faut, pour être complètement robuste, faire des essais randomisés, des méthodes donc, qui sont assez perfectionnées. Ça n'est pas l'objectif de ce que je suis en train de discuter là aujourd'hui. L'objectif de ce que je suis en train de discuter aujourd'hui, c'est comment moi, dans mon établissement, je peux mettre en œuvre une action dont je sais qu'elle est efficace parce que les essais randomisés me l'ont décrit. Donc, je ne suis pas dans une démarche où je vais randomiser des services, etc. Je veux simplement mettre en œuvre l'intervention. Et pour mesurer son impact, j'ai relativement peu de moyens. Je peux faire une mesure avant et une mesure après. C'est assez fragile. La robustesse de la mesure d'impact sera bien augmentée si on peut faire des mesures répétées qui permettront de voir au fil du temps si la situation s'améliore ou bien si on est sur une tendance historique qui ne fait que se perpétuer, ce qui n'est pas très intéressant. Il faut montrer des cassures dans l'amélioration qui sont associées à la mise en œuvre de l'intervention. Le troisième conseil qu'on peut donner, c'est de collecter juste assez de données. C'est très important. Quand on commence à mettre une étude d'évaluation en cours, vous en avez sans doute tous l'expérience, on a tendance à vouloir augmenter le recueil des données en se disant, mais tant qu'on y est à recueillir des données, on va aller voir aussi ce qui s'est passé sur d'autres sujets qui sont assez connexes et profiter donc de cette occasion. La réponse, elle est non. Ne faites pas ça. Collectez juste assez de données pour étudier l'impact. Si on est trop gourmand, on n'a rien à la fin. Quatrième conseil, c'est des petites mesures de changement significatif accélèrent le rythme d'amélioration. Il ne faut pas forcément essayer de tout faire en un temps avec une grosse mesure très lourde, très importante. Des petites mesures de changement significatif sont souvent préférables à une grosse mesure qui consisterait à changer le monde entier. Diapositive suivante. Quatrième étape du schéma de Pronovost, c'est de s'assurer que tous les patients reçoivent l'intervention. Ça, c'est l'étape finale, c'est la plus complexe, et ça doit donc être fondé sur le fait que les interventions doivent tenir compte du mode de travail dans chaque hôpital, mais également évidemment des ressources et de la culture locale. Et c'est là où la petite question du quiz arrive. Qu'est-ce que c'est que les 4 E, I, donc qui permettent de s'assurer que tous les patients reçoivent l'intervention? C'est d'abord s'engager, faire en sorte que les professionnels s'engagent, voire les patients, éduquer, former les équipes, exécuter, et exécuter, c'est réaliser, implanter, mettre en œuvre l'action, et c'est enfin évaluer cette action. Donc là, on dépasse un petit peu le schéma PDSA de tout à l'heure, et on arrive sur ces fameuses actions de type multifacette qui consistent à mettre en place des actions qui favorisent l'engagement, qui favorisent l'éducation, la formation des professionnels, et tout ça, c'est pour donner du sens à l'intervention, avant de mettre en place la fameuse boucle de Deming. Diapositive suivante. Alors, s'engager, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ça peut se faire et ça peut être très facilité par la discussion ou le partage autour d'histoires véridiques de patients, autour de petites vignettes, autour de scénarios, de faire discuter les équipes à partir d'histoires véridiques qui permettent aux équipes de prendre conscience du fait que ce qui est arrivé chez les autres, ou chez soi-même, mais chez les autres aussi, ça peut servir, pourrait très bien survenir dans sa propre unité, et donc favoriser un petit peu l'engagement des gens sur le sujet. Une autre façon d'engager, c'est de réfléchir, de conduire les équipes à mener une réflexion sur le préjudice imputable à la non-réalisation d'une intervention. Si on ne met pas en place cette action d'amélioration, qu'est-ce qui va continuer à se faire? Qu'est-ce qui va se passer? Et faire une mesure initiale lors de l'évaluation permet, par exemple, de faire cette estimation de ce préjudice imputable. Troisième petit truc, c'est d'informer chaque unité de soins de son taux annuel d'événements indésirables concernés par l'intervention. Ça permet de maintenir l'engagement des professionnels. Diapositive suivante, après engagement, c'est éduquer, former. C'est former l'ensemble du personnel. Ne pas oublier des type de professionnel qui pourrait du coup se sentir exclu, non concerné, etc. Il faut s'appuyer sur les études scientifiques qui ont déjà mis en œuvre les interventions proposées, on l'a déjà dit. Dans la formation, il faut être le plus concis possible et laisser des traces écrites, donc faire des résumés concis, simples, justifiant l'intervention et établissant une liste d'actions et de gestes à réaliser sur une page, si possible. Troisième étape de s'assurer du fait que tous les patients vont en recevoir l'intervention, c'est bien évidemment l'étape de réalisation du projet qui doit être fondée sur la conception d'une boîte à outils qui tient compte des obstacles locaux. Donc, on revient sur des choses qui ont été dites tout au long de cette formation. Et notamment en repensant le système de soins sur la base de trois principes. Le premier, c'est une approche classique en qualité, c'est la normalisation des processus de soins, donc l'établissement de protocoles l'établissement de recommandations, l'établissement voilà, d'outils qui consistent à s'assurer que tout le monde fait la même chose en traçant, c'est une approche classique en qualité. Ça ne suffit pas. Il faut également, pendant la réalisation de la pratique, créer des outils de contrôle. C'est des choses qui ont montré leur efficacité. C'est l'exemple des checklists. Et enfin, et ça c'est assez spécifique de la gestion des risques, il faut tirer les enseignements des erreurs survenues. C'est tout ce qui est revue de mortalité et de morbidité par exemple, analyse approfondie des causes, retour d'expérience que vous avez vu dans les séances précédentes. Diapositive suivante. Voyons le travail sur lequel Pronovost, hein, l'équipe de Peter Pronovost s'est fondée pour nous donner ce schéma un petit peu conceptuel d'implantation. Donc c'était une intervention qui visait à réduire les infections sanguines dans les unités de soins intensifs liées à la pose des cathéters. Diapositive suivante. Donc, dans son article, il nous dit, pour passer de la théorie à la pratique, il y a quatre étapes que nous avons déjà vues, donc il s'agit simplement de les redire. Résumer les données, recenser les données qui sont evidence-based, identifier les obstacles locaux à la mise en œuvre de l'intervention, mesurer les performances et s'assurer que tous les patients reçoivent l'intervention. Nous retrouvons ce que nous avons dit tout à l'heure. Diapositive suivante. Alors, qu'ont-ils fait sur ce sujet? Ils ont recensé, résumé les données qui permettent de prévenir les infections et ils ont retenu 5 bonnes pratiques. Vous vous rappelez tout à l'heure, je vous disais, à l'issue de la revue de littérature, il faut retenir un nombre limité de bonnes pratiques à implanter. Les 5 qu'ils ont retenues pour la prévention de ces infections, des infections des voies centrales, c'est d'abord de s'assurer bien qu'il n'y a pas de voie centrale qui reste pour rien. Donc retirer toute voie centrale qui n'est pas appropriée, qui n'est pas pertinente. La deuxième, c'est d'appliquer les règles d'hygiène des mains lors de la pose ou de la manipulation de ces cathéters. Troisième, c'est d'utiliser les mesures de protection maximale pendant la pose. Donc, c'est également d'utiliser la chlorhexidine pour l'asepsie de la peau, sauf en cas d'allergie. Et enfin, c'est d'éviter les voies fémorales et de privilégier les voies sous-clavières. L'article sur lequel il s'était fondé était un article publié dans la revue MMWR en 2002. Diapositive suivante. Donc après, il faut transformer, on l'a dit, cette intervention avec ces cinq actions en produits localement adaptés. Donc comment est-ce qu'ils ont réalisé, comment ils ont adapté localement ce qui était jusqu'alors des données issues de la littérature. Ils ont d'abord observé dans leurs établissements, hein, c'est un projet collaboratif. Dans plusieurs établissements, ils ont observé la pose des voies veineuses centrales. Ils ont repéré tout le matériel qui est nécessaire aux bonnes pratiques de pose de ces voies centrales, donc les gants stériles, les champs stériles. Ils se sont aperçus que parfois tout ce matériel était rangé dans des endroits différents, jusqu'à 8 endroits différents. Donc cette observation technique a permis d'affiner un petit peu l'intervention et de dire attention. Quand on va, si on veut améliorer cette action, donc de la sécurité de la pose des voies veineuses centrales, il faut centraliser tout le matériel de pose. Et donc, on vous propose de réaliser un chariot de pose pour certains établissements, ou bien dans une caisse de produits, de mettre l'ensemble des outils nécessaires, du matériel nécessaire à la pose des voies veineuses centrales. Vous avez une photo là de ce matériel qui est concentré dans un seul endroit. Diapositive suivante. Ensuite, ils ont identifié les barrières locales. Ils se sont aperçus, par exemple, que les infirmiers étaient hésitants à interpeller les médecins qui n'appliquaient pas les bonnes pratiques. Je crois que ça n'est pas spécifique à l'Amérique du Nord-Ouest. Ils ont également observé, ou en tout cas identifié, que les médecins n'étaient pas du tout d'accord pour être interpellés par les infirmières en présence des patients ou d'autres personnels. Là non plus, je ne pense pas que ça soit spécifique. Ils ont également identifié que les médecins étaient tout à fait d'accord en théorie avec ces bonnes pratiques, mais que quand il s'agit de les mettre en application, des barrières culturelles en limitaient l'application systématique. Et là, on revient sur la culture de sécurité. On n'a pas le temps, on va plus vite, on fait différemment. Pour lever ces barrières, ils ont mis en œuvre un programme de formation complet. Ça, c'était la façon, après avoir identifié les barrières locales, un programme de formation complet qui dépassait largement la pose des voies veineuses centrales et qui abordait les aspects culturels, le travail d'équipe et la communication, ce qu'on appelle en français les compétences non techniques. Apporter des compétences lors des formations en gestion des risques consiste non seulement à apporter des compétences techniques, mais également des compétences non techniques qui sont absolument majeures. Diapositive suivante. Alors ce programme de formation complet, par service, il était fondé sur 6 points de formation. La première, c'était d'évaluer la culture de sécurité. La deuxième, c'était de présenter, lors de la formation, les grands principes de sécurité des soins. Vous voyez qu'on est loin de la pose des voies veineuses centrales. La troisième, c'est d'identifier les problèmes de sécurité de façon générale. Qu'est-ce que c'est qu'une erreur? Qu'est-ce qu'il y a comme erreur fréquente, etc. Le quatrième, c'est de mettre en évidence et de mettre l'accent sur les travaux, l'importance du travail en partenariat avec le management et le top management en particulier. Vous voyez que même sur cette action d'amélioration qui était assez technique, hein, la pose des voies veineuses centrales et le pose et le suivi des voies veineuses centrales, la formation a été beaucoup plus large que l'objet même du travail de sécurité. Le cinquième point de la formation, c'était de tirer les enseignements des erreurs de sécurité et de développer des outils d'amélioration. Et enfin, ça a été de réévaluer la culture de sécurité. Donc un programme de formation qui était complet, sans être forcément très très long. Et vous avez l'adresse du site internet qui vous permet d'aller voir plus précisément le contenu de ce programme. Diapositive suivante. À côté de la mise en place de cette action de formation, des améliorations ont été opérées au sein des unités de soins intensifs, comme par exemple la mise en place d'une fiche d'objectifs qui était à compléter au quotidien pour améliorer la communication entre les cliniciens. Parce qu'on s'est aperçu aussi qu'il y a des problèmes de communication entre cliniciens. Également, il y a eu une intervention qui visait à réduire l'incidence des infections pulmonaires spécifiquement liées à la ventilation. Et de façon générale, il a été décidé de mettre un programme de sécurité global afin d'améliorer la culture de sécurité au-delà de l'objet initial qui était attendu. C'est ce qu'on appelle un programme multifacette. Diapositive suivante. Ils ont mesuré la performance en mesurant des taux d'infection. Et ça, c'était assez facilement mesurable car les CDC avaient donné des définitions normalisées, scientifiquement rigoureuses, donc c'était des mesures valides. La seconde raison pour laquelle c'était facilement mesurable, c'est que c'était déjà réalisé. Donc c'était faisable et acceptable. Ce qui était plus difficile et impossible, c'était de mettre au point une mesure valide et réalisable de conformité aux pratiques pour la pose d'une voie veineuse centrale, car ces voies sont positionnées de façon différente. Et donc il aurait fallu finalement passer par une observation des pratiques concrètement sur le terrain. Donc il aurait fallu coordonner cette observation. Il aurait fallu que cette observation soit indépendante, un minimum. Et donc tout cela rendait les choses très compliquées. Comme par ailleurs, les mesures déclaratives de conformité de pose avaient tendance, et on le sait, à largement surestimer les performances, il a été décidé que ça n'était même pas la peine de faire une mesure du déclaratif et qu'on n'allait pas mesurer le processus, donc la pratique de pose, on n'allait mesurer que le résultat, le taux d'infection. Diapositive suivante, les 4 E, qu'ont-ils fait? Eh bien écoutez, pour la partie E exécutée, ils ont défini 5 gestes répertoriés sur une liste de contrôle ou une checklist. Donc, des tâches qui étaient réalisées avant la procédure, le lavage des mains, la stérilisation du site à la chlorhexidine, les patients entièrement recouverts de champs stériles. La checklist possédait également un certain nombre de points pendant la procédure, l'utilisation de gants stériles, de masques et de blouses stériles, et la maintenance de la stérilité du champ. Et l'ensemble du personnel était tenu de suivre les précautions ci-dessus selon la procédure décrite et tracée sur cette checklist. Diapositive suivante. L'évaluation. Eh bien, écoutez, là, vous voyez, ils ont mesuré les infections. Vous voyez qu'ils ont pu faire des mesures répétées. On revient sur ce qu'on disait tout à l'heure. Et qu'ils ont pu corréler les changements de taux pour 1000 cathéters jour à des actions qu'ils ont réalisées au fur et à mesure dans le temps. D'abord, en mai, la formation, puis après la mise en place d'un support de traçabilité en juillet, puis la mise en place de la checklist, et vous voyez que c'est associé aussi à des décroissances du taux d'infection. Même s'il y avait des pics de remontée qu'il faut aussi essayer de comprendre et d'analyser. Diapositive suivant, toujours dans l'évaluation, donc vous voyez là aussi, quand on suit de façon plus large les infections, toujours pour 1000 jours de pause de cathétérisme, de cathéters centraux, une mesure faite à grande échelle qui lisse un petit peu les différences. C'est fait sur un nombre plus important d'établissements et par semestre. C'est pour ça que vous voyez les choses lissées. Et là, on voit très clairement une rupture dans la courbe de fréquence de ces infections et une décroissance importante sur une année. Je vous rappelais tout à l'heure que les collaboratives, hein, ces fameuses approches inter-établissements, devaient être faites sur des périodes courtes. Un an, c'est une période qui est considérée comme courte. Diapositive suivante. La liste des tâches à réaliser a conduit à mettre en place une équipe, inclure le management, sélectionner un domaine d'intervention, mesurer les performances, mettre en œuvre l'intervention et documenter les améliorations. Tout cela n'a plus de secret pour vous maintenant. Je vais passer sur un autre sujet qu'on aurait pu développer en 3 diapositives, mais on est un petit peu en retard. C'est le second défi mondial pour la sécurité des patients qui a consisté, diapositive suivante, à fixer des objectifs, diapositive suivante, à mettre en place une checklist, et là vous avez la traduction française de la checklist telle qu'elle a été faite par la HAS. Diapositive suivante, en conclusion, il s'agit, quand on implante des actions, de bien saisir le contexte, les données, les changements de culture, les mesures rigoureuses pouvant être prises, d'évaluer et de faire revenir les informations, tout en tenant compte de l'acceptabilité et de la faisabilité des actions d'amélioration. Ça, c'est le message principal de cette séance de formation. Vous avez quelques références dans la diapositive suivante et les réponses au quiz. PDSA, c'est Plan Do Study Act. Qui n'a pas besoin d'être systématiquement là? Les médecins. J'ai répondu en cours de séance. Pour les questions 3 et 4, l'ensemble des réponses étaient nécessaires, étaient justes. Et pour la dernière, les 4 E, on l'a vu aussi, c'est s'engager, éduquer, exécuter, évaluer. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je vois qu'il n'y a pas de questions qui a été posée très spécifiquement. Ça veut certainement dire que le cours était assez clair. En conclusion, vous avez, je pense, à travers de cette séance, beaucoup d'éléments pour adapter et mettre en œuvre des actions localement. Donc bon courage à chacun et bonne fin de séance de ces 8 sessions de formation avec l'OMS. Pour ma part, je ne vous reverrai pas, en tout cas je ne vous reparlerai pas. Donc individuellement à chacun, bon courage pour la suite. Au revoir.